Situation fausse. Pourtant elle partit assez tôt pour embrasser ses enfants, et Augustin, quand elle en parla, eut un pincement au cœur. Son père se moquait des convenances. Il la regarda plusieurs fois à la dérobée, et se laissa vers la fin charmé par son regard, son ton, les mouvements de sa tête. Il était à l'évidence heureux pour son fils, c'est-à-dire heureux de le voir retrouver l'expérience commune au vrai. Il avait longtemps balancé là-dessus, souhaitant parfois que la malédiction de l'amour lui soit épargnée, et en effet il pensait, sans pour autant s'apitoyer sur lui-même, que pour ce qui le concernait l'amour comme un dieu méchant ne lui avait montré le paradis que pour mieux le faire souffrir en refermant aussitôt, c'est-à-dire après 20 ans, les portes enchantées mais Augustin craint un instant que la simple présence de Marie. Charles-Pierre, qui avait appris à s'arranger avec la douleur, se laissa charmer jusqu'au point exact où le souvenir de sa jeunesse toujours présente aurait déferlé en lui, l'abattant encore plus. Marie-Antoinette ne s'offusqua pas de le voir passer brusquement de l'intérêt à l'indifférence polie. Augustin lui avait parlé de son père, et elle savait d'expérience à quelle ruse sont condamnés les vieillards qui ne sont vieux que d'apparence et qui se croient obligés, par élégance, par prudence, par habitude ou par souci des formes, de ne jamais trahir le terrible secret de leur jeunesse. Marie-Antoinette partie, Augustin couché, Charles et Nathanaël se parlaient encore, étonnés d'être là tous les deux, si longtemps après. Chacun se suffisait à lui-même. S'ils se parlaient beaucoup, c'est qu'ils étaient d'accord. Non sur leurs opinions, qui différaient souvent, mais sur la trame, sur laquelle ils étaient sans illusion, de ces opinions mêmes, celles de l'enfance aboutie dans les voyages et dans le deuil, dans les plus simples plaisirs aussi, une enfance perdue dans les sables du temps. Le lendemain, Augustin retrouvait Marie-Antoinette. Ce fut cet hiver-là qu'il sentit pour la première fois le temps passé. Il avait joui jusqu'alors d'une distraction, puis d'un enchantement joui, en vérité jusqu'à l'amour. D'avoir été aimé sans avoir séduit l'avait rapproché d'elle, et son mystère s'était un peu dissipé, comme il est naturel, laissant voir une nature plus profonde et plus riche qu'il ne l'aurait cru, une nature vraiment digne d'être aimée. C'est pourquoi il devint triste, de cet être qui bien malgré lui faisait éprouver son poids, il regretta les premières apparitions. Il eut la nostalgie de l'aventure, que faire à présent, sa grande beauté ne le retenait pas. Ce n'était pas effet de l'habitude, mais il croyait regarder au-delà du teint, de la taille, des cheveux, de la forme du dos. Ce qu'il avait adoré le troublait, seule sa voix et son esprit demeuraient hors d'atteinte, avec eux le souvenir de ses premiers mots, « Je ne suis pas très intelligente. Mais je sais au moins que l'amour, il faut l'avoir beaucoup attendu pour pouvoir le supporter. » Dans la même journée, il passait plusieurs fois, en sa présence de l'insouci à la douleur, en s'efforçant de lui cacher ce trouble qu'il connaissait pour la première fois, et dont il ne savait pas exactement la cause. Il y parvenait le plus souvent. Une fois ou l'autre elle le devina, et le considéra d'un air plus grave. Il n'était pas un enfant pourtant, et s'était attendu à tout sauf à ce qui lui gâchait les jours dont il disait, quelques heures auparavant, qu'ils étaient les meilleurs de sa vie. 16 Romains le printemps, cette année-là, vint assez vite. Dès qu'il en eut discerné les premiers signes la neige fondue, les champs redevenus gras semblaient levés comme pâte, Nathanaël de Bussy se tint prêt à partir. Il donna ses ordres et fit fermer Villers, mais sans dire où il allait. Ses gens se réjouirent de le voir plus gai que d'habitude. Puis il rendit quelques visites. Le général s'étonna de son enjouement enfantin. Plus tard, Marie-Antoinette devait se souvenir de ses instants passés avec le vieux Bussy. C'était le jour où, enfin, elle avait cessé d'avoir froid, le jour aussi où son fils aîné avait découvert une portée de chaton noir sur les bords encore gelés de l'Oron, en aval de l'ancien lavoir, et Nathanaël, elle ne l'avait pas trouvé différent. C'était au milieu d'une grande période de calme. Il ne se passait rien, ni dans le Berry ni au dehors. À peine les paysans s'inquiétaient-ils de ce monsieur de Paris qui avait acheté Bussy et y entreprenait, disait-on, des travaux. « Nous avions la paix depuis longtemps », murmuraient les vieilles. « Travaux d'extérieur seulement », répondaient les hommes, un peu énervés par la légende. Un soir pourtant Damien Courcial le berger descendit vers Nohant. Emmitouflé dans une grande limousine déteinte, le chapeau rabattu sur le nez, il conduisit sa carriole par des chemins de traverse pour n'être vu de personne. Il craignait tout particulièrement l'instituteur, qui s'il l'avait vu aurait parlé au maire ou, pis, fait la classe sur la superstition. Du haut des chaumines de Corlay, il découvrit la vallée noire, aux arbres mêlés de lilas. Sitôt qu'il y eut pénétré, le paysage changea. Au lieu de la forêt oppressante qu'on croyait deviner de là-haut, c'étaient des champs aux formes imprévues, d'innombrables pacages d'haies géantes, bouchures formées de hêtres, de charmes, de jeunes ormeaux mêlés de ronces ou de pruneliers aux fruits bleus. À la sortie du village, il reconnut la maison basse aux trois fenêtres dont sa mère lui avait parlé. Personne ne savait l'âge de la sorcière. On racontait dans tout le pays qu'elle tenait ses secrets de la fille de l'ancienne Noémie, comme on l'appelait, celle-là même qui avait ensorcelé Bussy parce que sa propre sœur avait été malmenée par l'abbé. Sa maison au sol de terre battue ne différait en rien des autres maisons paysannes. On n'y voyait aucun objet étrange. Son plus proche voisin, mu autant par la crainte que par la bienveillance, lui prêtait pour l'hiver une chambre au-dessus de son étable, où elle dormait mieux, profitant de la chaleur des bêtes. Les gens d'ailleurs l'aimaient bien, et jusqu'au curé de la paroisse. On ne se souvenait pas qu'elle eût jamais jeté de sort maléfique. Elle avait au contraire débarrassé plusieurs troupeaux des esprits malins qui,